Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Chers popophiles, popovores et popophages, nous voici donc réunis pour un nouveau numéro de notre Pop en stock transatlantique qui, cette fois-ci, nous emmène justement de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir Mathieu Letourneux à nouveau, puisque tu étais déjà venu dans d'autres occasions, et pour la première fois, Loïc Artiaga. Merci Mathieu, merci Loïc d'être là. Vous venez de présenter donc un livre tout à fait passionnant, aux origines de la pop culture, Le fleuve noir et les presses de la cité au cœur du transmédia à la française, 1945-1990. Et c'est une étude donc autour de ce grand moment de la culture populaire française, grand moment de transition comme nous allons voir. Alors, Loïc et Mathieu, vous avez déjà écrit ensemble un livre sur une figure sur laquelle il faudra qu'on revienne dans un podcast dès que vous aurez un peu de temps libre. C'est Fantomas, donc, auquel vous avez consacré l'étude Fantomas, biographie d'un criminel imaginaire aux Prairies ordinaires, Paris 2013. Loïc, tu es l'auteur de quelques livres, dont un grand volume que tu as dirigé à Autrement sur le roman populaire 1836-1960, des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles. La date est importante, nous verrons que dans une certaine mesure, votre nouvel ouvrage culmine, prolonge des travaux que vous avez faits tous les deux. Aussi une figure qu'on aime bien, à laquelle aussi il faudra qu'on consacre un épisode, donc Rocky, la revanche rêvée des Blancs, donc plus récemment en 2021. Mathieu, on t'a déjà reçu à différentes reprises, tu es l'auteur d'un ouvrage qui continue à être le pilier de mon cours sur le roman d'aventure, qui s'intitule justement « Le roman d'aventure », qui est le grand livre sur la question dans le domaine de la transition du 19e au 20e siècle. C'est un livre très important et la chronologie est importante encore une fois puisque cette fois-ci, tu travaillais de 1870 à 1930. Tu avais écrit aussi avec Jean-Yves Mollier une monographie sur la librairie Taillandier, donc la histoire d'une grande maison populaire, ce qui annonce aussi ce que vous venez de présenter comme approche à partir de l'étude justement de grandes maisons de l'édition populaire. Avec Alain Carou, Cinéma Premier Crime, donc sur le cinéma des premiers temps et son rapport avec le fait divers et la littérature criminelle. Et puis un autre grand livre, Fiction à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique au Seuil en 2017. Donc, dans un certain sens, avec Aux origines de la pop culture, vous prolongez dans la chronologie, les études que vous aviez tous les deux faites jusque-là, vous vous avancez donc dans une autre période de la culture populaire qui est la deuxième moitié du XXe siècle. Et tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à donc faire ce pas en avant dans la chronologie ?
C'est vraiment chouette de pouvoir bosser avec Mathieu, qui est vraiment un immense spécialiste de la question. Et c'était bien que tu rappelles finalement l'ensemble du travail qu'il a fait ces dernières années. Finalement, Le fleuve noir et les presses de la cité, c'est un élément parmi d'autres d'une galaxie un peu plus large, qui est à la fois très théorique. Je pense à l'autre livre que tu as cité, qui s'appelle Fiction à la chaîne et qui est pour moi un ouvrage majeur, et des espèces de coups de sonde comme ça, des monographies qui éclairent sous un jour assez nouveau en fait des objets la plupart du temps délaissés.
Si on en est à faire des compliments, je vais être obligé d'en faire également à Loïc Artiaga qui prépare très bien le café. je plaisante. Non, à vrai dire, c'est très très agréable de travailler avec Loïc aussi, non seulement parce que c'est un très bon chercheur, mais en plus parce que c'est important, je pense, pour les littéraires d'avoir la possibilité de travailler avec des historiens, d'abord parce que les méthodologies des historiens manquent en grande partie aux littéraires, qui ont une approche souvent un peu impressionniste de leurs objets, et donc c'est très important de travailler avec des historiens comme Loïc Artiaga. Et puis, parmi les historiens, on peut dire qu'ils représentent vraiment une figure compatible et ouverte à des approches transdisciplinaires, interdisciplinaires, et c'est pour ça que c'est très agréable de travailler avec lui. Et puis en plus, on s'entend bien et on arrive bien à travailler ensemble, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc, c'est une chance de travailler avec lui.
Le projet complète, comme je dis, assez bien vos deux parcours, vos deux démarches précédentes. Qu'est-ce qui vous a amené à partir sur cette idée, donc ?
Il y a plusieurs choses. Il faut avoir conscience que tous ces bouquins-là qui sortent, et tu précisais les dates, La plupart du temps, ils sont le fruit d'obsessions qui sont en réalité beaucoup plus longues, beaucoup plus anciennes. Je crois qu'il y a aussi des continuités avec le Fantomas qu'on avait fait avec Mathieu, pas simplement parce que les chronologies se succèdent, mais parce qu'il y a des objets qui servent un peu de transition. On a un petit blocage commun sur les années 60 qui s'est transformé en petit blocage commun sur les années 70 et les années 80. Au-delà du livre, on échange en fait sur pas mal d'archives sur lesquelles on travaille, sur des objets qui nous intéressent. Donc les livres à chaque fois sont des moments finalement où on doit synthétiser quelque chose, mais en réalité le travail d'archéologie de cette culture médiatique, de cette culture populaire, il se fait en continu. Et puis il y a ce que Mathieu va sans doute pouvoir raconter, c'est les gisements d'archives assez extraordinaires sur lesquels repose le livre. C'est important en fait de bien le comprendre parce que ce ne sont pas des objets sur lesquels d'habitude on trouve des archives aussi riches, aussi pléthorique, parce que ce qui est conservé en général à la BNF, aux Archives nationales, dans des grandes séries, ce sont plutôt des documents qui concernent les auteurs consacrés. Là, il y a un gisement fou et Mathieu a été à l'initiative de la découverte de ces archives, donc je pense qu'il va pouvoir te raconter tout ça.
Pour compléter quand même sur l'histoire de ce projet, on tournait autour de cette question des 30 Glorieuses. On avait travaillé un petit peu sur ce qu'on appelle le Eurospy, c'est-à-dire le récit d'espionnage des années 60 et début des années 70. On avait déjà fait ensemble un ou deux articles sur le sujet, donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait depuis longtemps, on voulait travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que cette période des 30 Glorieuses nous intéresse? D'abord, en effet, parce qu'on avance, finalement. J'ai l'impression qu'on avance. Loïc a commencé à travailler sur le 19e siècle et sur la censure et sur les écrits catholiques sur la littérature populaire au 19e siècle, et puis il a avancé progressivement vers le 20e et le 21e siècle, et j'ai fait un peu un travail parallèle, et régulièrement, on s'est croisés autour de préoccupations communes, parfois dans des soirées un peu arrosées, qui ont été très créatives, et je crois vraiment qu'une des questions qu'on se pose, et c'est vraiment aussi l'apport d'historien de Loïc, c'est de rattacher un peu notre époque contemporaine, qui a un rapport évident à ce qu'on appelle la pop culture, avec une histoire longue de la culture populaire, de la littérature populaire, qui justement réhistoricise un certain nombre de fausses évidences sur notre contemporain. Et je trouve qu'à toutes les époques, et chaque fois qu'on a travaillé ensemble, on avait cette préoccupation de ressaisir dans l'histoire un certain nombre de phénomènes qu'on lit de façon peut-être un peu trop évidente, soit comme contemporain, soit au contraire comme très ancien. Pour revenir aux archives, en l'occurrence, il y a eu cette chance qu'on doit vraiment à une des responsables d'Editis, hein, du grand groupe éditorial Editis, qui est la responsable du patrimoine, qui s'appelle Virginie Clessen, et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui nous a permis d'avoir accès à un certain nombre d'archives, mais de façon très généreuse, du Fleuve Noir et des Presses de la Cité.
Et justement, Fleuve Noir, donc fondé en 1949, et Presses de la Cité, 1943, ont été des géants de l'édition populaire qui se sont rassemblés en 1963 sous une même raison sociale qui s'appelait le Groupe des Presses de la Cité et qui est aujourd'hui Editis, dont tu parlais justement.
C'est dire l'importance de ces éditeurs. Le Fleuve Noir va devenir assez rapidement le plus gros éditeur populaire français. Alors, il va vraiment dominer de manière hégémonique pendant une vingtaine d'années, mais il reste un éditeur populaire très important, qui publie un certain nombre de très gros auteurs de best-sellers, donc ça reste un éditeur très important, hein. Donc c'était un éditeur au poids considérable, avec un total de sans doute 200 millions d'exemplaires vendus, c'est quelque chose de totalement vertigineux. Quant aux Presses de la Cité, ça a été un éditeur populaire très important, le principal concurrent de la série noire dès les années 50, et puis qui a pris une autre direction que le Fleuve Noir, c'est-à-dire une direction de géant de l'édition qui a absorbé un très grand nombre de maisons d'édition jusqu'à devenir le deuxième plus gros groupe éditorial français. Donc, ça n'a plus rien à voir avec cette petite maison d'édition lancée en 1943. C'est ces archives qu'on a pu découvrir et progressivement aussi, on a pu récupérer un peu aussi parce qu'on avait déjà l'accès à ces archives, beaucoup d'autres archives, soit conservées par des personnes privées, soit conservées par les descendants de quelques auteurs importants comme la fille de Jean Libert, qui va être Paul Kenny. Paul Kenny, c'est un auteur de romans d'espionnage majeur des années 60 et 70, ou des archives de G.J. Arnaud, qui est aussi une sorte de figure majeure du roman policier, du roman d'espionnage et de la science-fiction entre 1950 et les années 2000. Lui, il écrit vraiment jusqu'à sa mort un nombre vertigineux de livres. Je crois qu'il a 450 livres publiés.
C'est vertigineux. Les gens connaissent sans doute, ceux qui nous écoutent connaissent sans doute La Compagnie des Glaces, mais qui est la deuxième époque de son travail, son passage à la science-fiction, après avoir connu une grande période justement dans l'Eurospy, l'espionnage avec la série du Commandeur notamment, oui.
Absolument, la Compagnie des Glaces, on pense, on suppose que c'est une des sources d'inspiration du transpersonnel.
Vous êtes parti donc de la possibilité de consulter ces archives. Qu'est-ce qui vous a frappé et qui vous a donné envie que ça devienne un livre du coup ?
Le premier truc qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que ce bouquin-là, avec sa couverture qui est belle et qui est kitsch en même temps, voilà, qui nous renvoie à ces imaginaires un peu de pacotille, elle cache quand même un objet d'étude dont on peut s'étonner que jusqu'à présent, il n'intéressait précisément personne. Et pas simplement parce qu'on a affaire à des bouquins qui ont été lus à peu près par tout le monde, à la fois en France et à l'étranger. C'est aussi une des grandes découvertes que l'on a pu faire, hein, c'est l'importance de la traduction pour des trucs qui nous semblent aujourd'hui très franchouillards, mais qui en fait circulent allègrement, alors d'abord dans l'espace francophone bien sûr, qui circulent aussi en Europe. C'est l'histoire d'un géant transmédia en fait. Ce n'est pas simplement un géant éditorial, et on sait que les maisons d'édition, elles ont souvent aimé raconter leur histoire autour de figures tutélaires. Tout le monde connaît en fait l'histoire de Gallimard, on connaît l'histoire des éditions de Minuit. Enfin, il y a un goût normalement dans le monde éditorial pour raconter sa propre histoire. Et là, ce géant éditorial qui est Editis, dont on parle à longueur de temps dans la presse française en fait, hein, sur ses destinées industrielles, en fait, on n'en savait rien. Et pourtant, à l'époque, c'est un sujet majeur, pas simplement pour les lecteurs, mais aussi pour la police, pour l'État. Ce sont aussi des archives que l'on a pu voir, qui surveillent en fait d'extrêmement près à la fois les mouvements financiers, le capitalisme d'édition complètement fou que Sven Nielsen entreprend dans les années 1960, mais qui garde un œil aussi sur les productions populaires de l'époque. Donc c'est vraiment un sujet majeur, à la fois pour comprendre comment se construisent les imaginaires de la Belle Époque. Mais on déborde les Trente Glorieuses, en fait, avec le livre. On s'intéresse aussi aux destinées de tout ça après.
C'est un aspect très intéressant qu'on va voir, la transition de l'un à l'autre. Non, on apprend beaucoup de choses. Il existait donc le livre, je pense que c'était Rahab qui avait fait donc le grand livre sur le fleuve noir, qui était un peu au moment de sa disparition. C'était un peu une élégie comme livre, qui reste un livre intéressant dans le sens où il y a aussi beaucoup d'entretiens. Ils étaient encore vivants à beaucoup de ces grandes figures.
On l'a utilisé, il est cité évidemment hein, dans notre travail.
Oui,
ce sont des documents qui sont extrêmement précieux hein, sur les 50 ans du fleuve.
C'est devenu un petit peu un livre culte pour tous ceux qui aiment tout ça, mais c'est vrai que c'était un peu une rareté. C'est un livre qui est quand même un peu pour les mordus, qui souffrait encore, je pense, de cette opprobre sur Fleuve Noir dont vous parlez. Je pense qu'il est lui-même très symptomatique. Vous en parlez à plusieurs reprises. Bon, d'un côté, c'est le moment, je pense, où le mépris institutionnel envers la littérature populaire, ce qu'on appelait la paralittérature à cette époque-là, a été très fort. Je pense que c'est clair que du côté académique, etc., de toutes les institutions, même les journaux de la critique journalistique, etc., etc., étaient méprisantes par rapport à ces objets délibérément populaires. D'un autre côté, je pense aussi, comme vous l'expliquez, il y a une sorte d'obsolescence programmée dans le projet lui-même de ce capitalisme extrême du populaire. Ils ont disparu très vite, c'est-à-dire qu'ils ont été à la fois totalement hégémoniques pour les gens qui ont connu cette période. Par ailleurs, donc, l'obsolescence s'est emparée pratiquement tout de suite du fait qu'ils ont disparu de la mémoire collective très rapidement aussi. On va suivre un peu le fil de votre ouvrage. Justement, le moment où ces deux maisons d'édition apparaissent est un moment extrêmement intéressant, très particulier et très paradoxal, puisque d'un côté, bah, on est dans ce qu'on a appelé à un moment donné le sexy noir, donc on est dans cette sorte de raz-de-marée de production hard-boiled, imitation des États-Unis, etc., etc., avec un modèle très, très précis qui est celui d'un mélange entre érotisme et violence au lendemain de la libération. Et très curieusement, donc, il va y avoir comme ça une sorte de frénésie du sexy noir, d'où peu à peu vont émerger ces géants. Vous évoquez quelque chose de très intéressant par rapport à la question de l'américanisation. Vous expliquez que ce n'est pas un processus simple comme on l'a généralement entendu. Donc, ce n'est pas juste une acculturation au sens des anthropologues. Ce n'est pas juste l'acceptation du modèle américain. C'est quelque chose d'un peu plus complexe qui est de l'ordre de l'appropriation.
C'est un élément vraiment majeur du bouquin et a priori, je pense qu'on pourrait juste sur cette thématique de l'américanisation en fait faire une émission complète quoi. Voir l'américanisation simplement comme un processus d'acceptation, ce serait une vision totalement simpliste et il n'y a pas besoin finalement de beaucoup réfléchir pour se rendre compte que c'est pas comme ça que ça marche. On parle français en France encore, on voit beaucoup de films américains, on mange beaucoup de fiction à l'américaine, mais on n'a pas été américanisé comme les Américains. Il ne faut jamais oublier que ce concept, hein, Pascal Horry l'explique très bien, l'américanisation, c'est d'abord une volonté interne, hein, aux États-Unis. Il faut d'abord américaniser les Américains parce qu'on a affaire à un melting pot de gens qui viennent de lieux divers. Alors, l'américanisation en France, mais pas simplement en France, en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement un processus qui est un processus assez complexe, qui est un processus d'appropriation des formes. Autrement dit, on s'empare d'un certain nombre de genres, de codes, que parfois on mime d'une manière qu'on pourrait trouver un peu ridicule et dérisoire aujourd'hui, quoi, avec la vague des faux Américains. Il y a cette histoire célèbre du « j'irai cracher sur vos tombes », où finalement le public est pris à son propre piège, à vouloir voir des Américains partout. Hein. Mais assez vite, les masques tombent et on comprend que derrière ces faux Américains, il y a de vrais auteurs français et francophones qui sont tout simplement en train d'inventer une nouvelle grammaire pour dire le monde nouveau, celui qui naît après la Seconde Guerre mondiale et que l'ensemble de la population, d'une certaine façon, appelle de ses voeux. Il ne faut jamais oublier que si c'est aussi rapide ce changement à partir de 1943 pour les presses de la cité, ça va être la fin des années 40 pour le Fleuve Noir, mais la grande bascule, c'est évidemment après la Seconde Guerre mondiale. Pour ces maisons d'édition et pour beaucoup d'autres, il y en a des centaines qui mériteraient aussi qu'on fasse leur histoire, qui serait une histoire beaucoup plus éphémère. S'il y a ce besoin de renouvellement, de changement, c'est à la fois parce qu'il y a eu des pénuries pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a une soif de lire qui est assez compréhensible, et puis il y a la volonté de tourner le dos à une époque, quoi. Voilà. Il faut l'avènement d'une nouvelle France pour que tout ça tienne debout. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, on voit des mécanismes qui sont assez proches, parfois proches et accélérés, encore plus que ce n'est le cas en France, dans des pays comme l'Italie, par exemple, hein, qui connaissent une américanisation culturelle vraiment extrêmement rapide. Pour la France, la thèse de Christine Ross, qui a travaillé sur cette époque, c'est qu'il faut toujours voir ensemble la décolonisation, donc autrement dit, un pays qui est en train de complètement perdre sa vieille surface historique, et l'américanisation, qui est une manière finalement aussi de basculer dans un monde différent. Ces fictions, elles sont finalement des lieux où s'enregistrent ces transformations.
Pour poursuivre, quand on parle d'américanisation, on évoque essentiellement l'arrivée du roman noir américain, c'est-à-dire le polar à l'américaine, l'arrivée de la science-fiction, et on pourrait dire l'arrivée d'un récit d'espionnage dont les codes sont aussi des codes beaucoup plus proches du roman américain que ce qui était la figure antérieure, le genre antérieur au roman d'espionnage, le genre international antérieur au roman d'espionnage, c'est-à-dire le roman d'aventure. Et ces trois genres, ils sont vécus comme américains parce qu'il y a des personnages américains au début, dans les romans d'espionnage, ça continue comme ça, et puis les codes sont empruntés aux États-Unis. Mais en fait, ces genres, très vite, au bout de quelques années, il ne s'agit plus du tout d'imiter les Américains. Ce n'est pas le but des auteurs. Le but des auteurs, c'est simplement, désormais, ce sont les genres dominants auxquels tout le monde adhère. Et donc, il s'agit de produire des œuvres dans les genres dominants. La vraie question, donc, c'est comment ces genres, pourquoi ces genres sont-ils devenus dominants? C'est ça, la vraie question. Et c'est une question qu'on s'est posée. Et on a assez vite, en lisant de près des romans, on se rend assez vite compte que, dans le fond, il ne s'agit pas d'américaniser les imaginaires. Il s'agit tout simplement de trouver dans ces imaginaires nouveaux, les imaginaires américains, de quoi raconter une nouvelle identité nationale. La vraie question, c'est comment se débarrasser des anciens imaginaires populaires, le vieux roman d'aventure, le vieux roman policier, et comment trouver des imaginaires plus adaptés. Le meilleur exemple, c'est le roman d'espionnage par rapport au roman d'aventure. Le roman d'aventure correspondait au modèle idéologique de la France de l'entre-deux-guerres. Il était patriotique, il était colonialiste, il reposait sur l'affirmation de la domination française sur le monde, une domination intellectuelle, culturelle, mais aussi militaire, et aussi presque de cœur, le français était supérieur aux autres, et puis elle reposait sur une rivalité, je ne sais plus si je l'ai dit, avec les autres nations françaises. Bon, donc on a tout ce dispositif. Or, avec la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, chacune de ces valeurs est mise en crise. Le patriotisme, la France est humiliée, la rivalité européenne, très vite on va se lancer dans cette idée d'une construction européenne, le modèle colonial s'effondre, et cette idée d'un nationalisme belliqueux ne tient plus à une époque d'humiliation de la France et de traumatisme d'une guerre mondiale. Et donc il faut réinventer une identité susceptible d'affirmer en quelque sorte, malgré tout, une identité heureuse d'une collectivité. Ce dont on se rend compte, c'est que le plus simple, c'est de se débarrasser de ces genres qui sont trop marqués par des imaginaires et par des idéologies, le roman d'aventure géographique est trop marqué par ses idéologies antérieures, et d'aller investir des imaginaires qui sont peut-être exotiques, américains, mais qui se prêtent à l'expression d'une nouvelle identité française, celle des Trente Glorieuses, celle d'une France désormais alliée des autres pays européens, celle d'une France qui accepte d'être une nation seconde, celle d'une France qui investit un imaginaire technologique, etc. Pour nous, c'était vraiment important justement de montrer comment, quand on regarde réellement la façon dont la production d'œuvres sérielles, d'œuvres de genre se fait, eh ben, elle est toujours en phase avec la société, et c'est bien au sein de la société qui l'accueille que la signification existe.
Oui, c'est un aspect très réussi de votre travail, cette mise en rapport. Elle est par ailleurs aussi, il y a une autre dimension de l'américanisation dont vous parlez, c'est l'américanisation des procédés. C'est justement le passage à un autre type de capitalisme éditorial qui va marquer le succès de ces deux groupes.
Une des thèses fortes du livre, c'est quand même de dire que le lieu où la francité se donne à voir, où elle se déploie, où on l'enregistre, où elle est livrée sans phare, c'est dans ces fictions-là. C'est important, en fait, de le dire et de bien le comprendre, parce que ça légitime, en fait, ces objets, au-delà du goût qu'on peut avoir pour eux, au premier degré ou au second degré, ça les légitime comme objets d'histoire. On les traite en série comme on traiterait des archives, en fait.
C'est le paradoxe de la culture populaire. D'ailleurs, le titre de votre introduction, c'est « Les livres que tout le monde a lus ». Et c'est ça le paradoxe. C'est pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à étudier en littérature, etc., ce que les gens lisent vraiment. Et ça, c'est un des grands problèmes, effectivement, qu'on a tous eu quand on a travaillé sur la culture populaire au début. Il y a ce schisme, non, qui est assez frappant. Et c'est vrai qu'un des grands moyens par lesquels l'étude de la culture populaire a pu se faire, c'est à la fois par les cultural studies et par l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle. C'est justement parce que, de ce point de vue, c'est absolument évident que c'est la culture populaire qui est le plus à même de répondre à la question des sensibilités, des mentalités collectives. Pour parachever le double aspect de votre étude, c'est que d'un côté, il y a une étude des contenus, des ouvrages, etc. D'ailleurs, vous avez dû avoir pas mal de plaisir à vous replonger dans les Copland et autres super-héros français de cette époque. Nous y reviendrons pour OSS et son Afterlife, sa résurrection dans le cinéma récent. À côté de ça, vous faites vraiment un travail sur l'histoire des maisons d'édition comme telles. Et c'est là où cet autre aspect de l'américanisation est lui aussi intéressant. C'est comment ces deux visionnaires, finalement, Nielsen et Caro, au titre d'entrepreneurs, si on veut. Et c'est vrai que c'est un des aspects qui a souvent été délaissé dans les études littéraires, c'est l'étude de comment ces choses-là se goupillent réellement. Et on apprend des choses très intéressantes pour l'histoire de ces séries.
Donc, sur cette américanisation des modes de travail, les figures de Armand Caro et Nielsen, elles sont pas tout à fait comparables, mais finalement, quand on les regarde, on voit quelque chose qui s'empare de manière beaucoup plus large du monde de l'industrie en France. Caro, c'est plutôt une figure de commercial et de commercial de terrain. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se développe dans la France des années 1950-1960. C'est la France des nouveaux représentants de commerce, en fait. Ceux qui vont avoir des cartes, puis qui vont représenter des marques et qui vont tenter d'imposer des nouveaux modes de consommation sur l'ensemble du territoire, en prenant appui sur un maillage commercial qui lui aussi est tout à fait nouveau, les grandes surfaces, les drugstores, c'est-à-dire qu'on change d'air aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces maisons d'édition, elles s'intéressent aussi à ces modes de diffusion. Et puis de l'autre côté, Nielsen, c'est plutôt la figure du financier. Alors, ce n'est pas le premier. Jean-Yves Mollier l'a très bien montré. Il y a des figures antérieures autour d'Hachette, c'est-à-dire des gens qui font le pari de l'argent avec l'édition. Mais Nielsen, c'est quelqu'un qui va assez vite jouer en bourse, l'avenir de son entreprise, et qui va s'allier de grands groupes financiers au point qu'il va perdre la possession de son outil dès les années 1960. Il va continuer à diriger, mais en fait, il y aura des financiers derrière qui auront la possession de l'entreprise. Donc, au milieu de tout ça, une des grandes figures, qui est sans doute une figure médiane entre ce commerçant de terrain qui était Caro, et ce capitaine, alors pour capitaine d'industrie, ça ne fonctionne même pas parce que c'est plutôt une figure 19e, mais cet investisseur, ce type qui joue l'avenir de sa boîte en bourse comme Sven Nielsen, au milieu de tout ça, il y a une figure qui nous a semblé majeure parce qu'on la voit à la fois dans l'organisation de ces sociétés, mais elle fait aussi partie de l'imaginaire de ces fictions, parfois de manière sublimée, c'est la figure du cadre. La figure du cadre, c'est le nouveau paradigme social, en fait, de la France des Trente Glorieuses. C'est l'image qui devient l'image pivot centrale. Et ces auteurs sont d'une certaine manière des architectes de série, de production sérielle. Ils sont des cadres au sein de ces nouvelles entreprises éditoriales. Les personnels qui déploient l'activité, et notamment ceux qui la déploient, il y a un moment où on parle un petit peu du Canada avec cette volonté aussi de développer de nouveaux territoires. En fait, que font ces maisons d'édition ? Une fois l'empire colonial disparu, elles essaient de trouver d'autres débouchés internationaux, et parmi les débouchés, il y a l'Amérique du Nord. Et on voit que quand les responsables des maisons d'édition se déplacent, ils ont vraiment des réflexes qui sont des réflexes de cadre. Autrement dit, ils pensent plutôt l'objet qu'ils ont à vendre, l'objet qu'ils ont entre les mains, comme ils penseraient un paquet de lessive ou des savonnettes, quoi. Avec l'idée qu'on va mettre en place des techniques de vente qui sont certes particulières à l'objet, mais qui vont utiliser des circuits qui sont des circuits beaucoup plus généraux dans lesquels on trouve d'autres biens de consommation.
Oui, des présentoirs. Donc, notamment, vous avez des très belles photos aussi dans le livre. Il y a tout un aspect illustré où vous montrez des photos de différents aspects de cette transformation radicale du business de l'édition.
Mathieu, peut-être les présentoirs, il faut que tu racontes ça.
Alors d'abord, oui, les présentoirs, on peut en dire un mot, parce que concrètement, la manière d'investir ces nouveaux espaces de vente, ça consiste à installer des présentoirs partout, c'est-à-dire à arriver avec un de ces objets en fil de fer, hein, et à les proposer dans des commerces qui ne sont pas des commerces du livre, donc les épiceries, les bureaux de tabac, les maisons de la presse aussi, qui étaient investies depuis longtemps, hein, par l'édition populaire. Et en effet, les drugstores, les stations-service, etc. C'est vraiment une stratégie payante parce que ça permet de toucher la moindre petite ville de France et de transformer, de faire de la boutique de la petite ville un dépôt de livres et un dépôt lié au fleuve noir ou aux presses de la cité. Et donc, c'est vraiment très, très important, cette technique. Et on voit que ça marche. Dans les années 60, on voit que dans certaines petites villes de 3000 habitants, ben, on va proposer tous les mois une cinquantaine de volumes du fleuve noir, c'est-à-dire que ces livres circulent entre toutes les mains, dont les grands succès Copland, par exemple, justement, de Paul Kenny, va être proposé à sa sortie. Alors, il y en a 6 par an, donc disons tous les 2 mois, à 12 exemplaires, 13 exemplaires même. C'est des chiffres considérables pour une petite ville de 3000 habitants. L'autre élément, à mon avis, qui renvoie à cette modernité technique, en effet, que Loïc décrit très bien à partir d'un imaginaire industriel américanisé, c'est la manière de recruter les auteurs qui est très, très significative d'une conception entrepreneuriale, industrielle de la créativité, puisque quand vous étiez un auteur au Fleuve Noir, vous envoyez comme partout votre manuscrit. Il était évalué comme partout par un comité de lecture, mais si le comité de lecture acceptait le livre, ça ne permettait pas encore que votre livre soit édité parce qu'on vous répondait que le livre avait été accepté, mais qu'il ne serait publié que dès lors que vous aurez vu 2 autres manuscrits acceptés, c'est-à-dire qu'on ne publie le livre qu'à partir du moment où on est sûr d'en avoir au moins 3 publiables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on demande aux auteurs, c'est d'être justement des auteurs qui font marcher la machine industrielle du livre. Ce qu'on cherche, ce sont des auteurs qui sont capables de publier 4, 5, 6, parfois 10 livres par an. Donc, ce sont des auteurs qui remplissent ce qu'au Fleuve Noir, on appelle l'armoire aux manuscrits. Une armoire dans laquelle on a des piles de manuscrits d'avance qui permettent de faire tourner la machine parce que ces livres sont vendus précisément comme des biens de consommation périssables et que donc il y a un renouvellement constant des titres dans les librairies tous les mois, tous les 2 mois on en apporte des nouveaux, ça dépend des endroits. Ce que ça veut dire, c'est que le renouvellement des titres est destiné justement à la rotation des produits. Donc on est vraiment dans une logique qui est celle de la société de consommation des Trente Glorieuses.
Oui, études de marché à l'appui aussi, et vous avez pu constater dans les archives la façon très détaillée dont sont suivis ces processus. Alors, un mot sur la sélection, quand même très intéressant, c'est que le comité de sélection, contrairement aux grandes maisons d'études d'édition de la littérature dite légitime, c'est un comité d'anonymes, et je vous cite, un teinturier, un maçon, une dactylo, un médecin, un expert comptable et un docteur en droit chargé de dépister les erreurs juridiques, et ce sont eux qui notent les manuscrits proposés et il faut avoir une moyenne de 7,5. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a une volonté réelle de s'ajuster au goût de ce qui est pressenti comme le public cible de ces publications, ce qui contraste complètement avec la tradition des autres maisons d'édition.
C'est intéressant en fait de faire la comparaison avec les maisons d'édition légitimes parce que ça prouve bien que si on s'en tient à des cadres de perception strictement éditoriaux au sens de l'histoire de l'édition telle qu'on l'a construite jusqu'à présent, en fait, on manque tout un tas de choses. Ce sont à la fois des entreprises éditoriales et en même temps, elles échappent au cadre classique de fonctionnement d'une maison d'édition. Enfin, telle en tout cas que l'histoire de l'édition a pu les penser. Le comité éditorial, dans les maisons d'édition légitimes, ce qui se raconte souvent, c'est qu'il a une fonction symbolique. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens qui ne sont pas des gens inconnus, au contraire, des gens connus, qui éventuellement vont être utiles après. C'est-à-dire qu'une fois que le livre a été choisi par l'éditeur, pour réseauter, pour faire la publicité des ouvrages, pour obtenir les papiers dans la presse, mais la plupart du temps, ils ne sont pas consultés, en réalité. Ici, on a quelque chose qui relèverait presque de ce qu'on appelle aujourd'hui les focus groups. Autrement dit, ce qu'inventent Armand Caro et ses employés, ce sont des dispositifs que l'on voit dans les grands groupes. Aujourd'hui, quand, je sais pas moi, Canal+ veut lancer une série ou n'importe quel autre produit culturel, en fait, il réunit un focus group avec, effectivement, peut-être un boucher, un teinturier, etc., etc., quoi, à qui on demande son avis. Donc, un pool, finalement, de lecteurs, auditeurs, consommateurs réduits, et qu'on interroge comme on interrogerait finalement son voisin de palier, quoi.
Ça a des répercussions immédiates sur le personnel du Fleuve Noir et des presses de la Cité. C'est là où il y a les anecdotes très savoureuses sur les auteurs qui travaillaient dans ces conditions très industrielles, parce qu'il fallait vraiment écrire très vite. Donc, c'est sur ces célèbres forçats de l'Underwood, le titre des mémoires d'un de ses auteurs, ce qui donne quelque chose d'assez singulier. C'est une nouvelle figure de l'écrivain aussi, qui rapproche un peu de ce qu'était le feuilletoniste, etc. Mais disons un feuilletoniste précisément modernisé, dans un aggiornamento de la figure du vieux baroudeur des lettres populaires.
La modification du statut de l'auteur, elle se joue à mon avis à deux niveaux. Le premier niveau, c'est en effet celui d'un auteur qui est lié à la maison d'édition et qui conçoit son métier d'écrivain comme un métier d'employé en un sens, c'est-à-dire qu'il programme sur l'année ses vacances, son travail d'écriture, ses pans de rédaction d'un nouveau livre, avec vraiment des délais qui sont conçus sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée, comme des délais de travail réguliers. On sait par exemple que Claude Rank écrivait ses livres en 15 jours. Que J.J. Arnaud, qui était vraiment le plus rapide, se donnait 8 jours pour écrire son roman. D'autres écrivaient plus lentement, mais ce qui compte, ce n'est pas la question de la rapidité, c'est la question de la programmation. Les auteurs programment sur l'année les 6, 8 livres, 10 livres qu'ils doivent écrire. Ils le savent, ils préparent ça sur le temps. Quand ce sont des auteurs de romans d'espionnage, cette manière de programmer l'écriture des livres et leur publication met aussi en jeu la question de la documentation, voire des voyages documentaires. Et donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est un rapport à l'écriture qui fait d'eux des professionnels des lettres, disons des gens liés à ces pratiques créatives que décrit bien Pierre-Michel Menger, par exemple, ces pratiques créatives qui sont des pratiques dans lesquelles la créativité n'est pas celle de l'inspiration, mais celle d'un travail et d'un travail lié à une entreprise. C'est plus proche de ce qui se passe à la télévision ou toute une série de métiers du cinéma ou de métiers de la presse où on travaille vraiment avec des contraintes qui sont déterminées, qui se traduit aussi par une liberté moindre. L'autre mutation majeure, elle prolonge ce que disait Loïc, c'est le fait que les auteurs, dans le fond, se pensent de moins en moins à partir du modèle de la littérature. Et donc, ils ne ressemblent plus tellement à ces auteurs qui font de la littérature populaire parce qu'ils n'ont pas pu faire de la littérature légitimée, de la grande littérature, ce que décrivait très bien Anne-Marie Thiès pour La Belle Époque. Ils se pensent de plus en plus, finalement, comme des créatifs qui peuvent aussi bien écrire des romans que faire des scénarios de films, que relire des manuscrits d'autres personnes, de faire des scénarios de bande dessinée, de travailler pour la télévision ou pour le cinéma comme conseiller sur des manuscrits, etc. Et donc, ce sont des auteurs qui sont finalement moins liés à ce que la sociologie de la littérature décrit comme le champ littéraire et à ce qu'on pourrait décrire comme un champ médiatique, et qui sont finalement assez bien intégrés dans le champ médiatique.
Il se retrouve des choses assez étonnantes comme le product placement, donc les placements de produits, quelque chose qu'on connaît pour le cinéma, les séries de James Bond, etc., etc. Mais là, tout à coup, ils se retrouvent parfois à leur insu, et ils découvrent ça en lisant la publication des livres, mais ils se retrouvent donc que leur cigarette sur laquelle ils n'avaient peut-être pas mis de nom explicitement devient une gitane parce que Fleuve Noir a passé justement un accord avec la CEITA et ils mettent donc les Gauloises, les Gitanes, le Pall Mall, etc., etc., un peu partout. Donc, c'est un aspect assez rigolo, mais qui est effectivement beaucoup plus proche de ce qui se fait dans les médias, la sponsorisation, etc., etc., que ce qu'on associe à la littérature. Là, donc il y a tout l'univers de ces auteurs-là. Est-ce que vous avez eu, dans les entretiens avec la famille, etc., est-ce que vous avez eu quelques anecdotes un peu sur cet aspect de la vie de ces écrivains ?
On a retrouvé des documents sur le placement de produits, vraiment, et on voit bien que beaucoup d'auteurs le pratiquent vraiment sans aucune gêne et en parlant très explicitement avec les commerçants, avec leurs éditeurs. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que la question du placement de produits dans leur esprit, elle est vraiment liée à ce qu'aujourd'hui on appellerait les droits dérivés. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est pas rangé dans les droits dérivés, mais les droits dérivés sont très importants pour ces maisons d'édition. C'est des droits dérivés au même titre que la transformation du roman en roman feuilleton dans la presse régionale, la transformation en bande dessinée, l'adaptation au cinéma, à la radio, à la télévision. Ça ne rapporte pas énormément d'argent à cette époque parce que les adaptations à cette époque ne rapportent pas du tout les sommes qu'elles rapportent aujourd'hui. Et puis, ce sont des auteurs qui, de toute façon, gagnent de telles sommes pour les plus connus d'entre eux que c'est assez dérisoire par rapport aux sommes considérables qu'ils gagnent. Mais ça permet en quelque sorte de faire le roulement. Alors, les adaptations, c'est ce qui fait aussi de la publicité pour eux. Ça rend leur œuvre plus connue. Donc, ça permet aux livres de continuer à marcher. Quant au placement de produits, ma foi, ça rapporte le fait de, à bon marché, avoir une cave personnelle, une cave à vin, une cave à alcool, de pouvoir faire des cadeaux autour de soi parce qu'on reçoit régulièrement des cartons et puis de recevoir des sommes d'argent. Alors qu'elles ne sont pas évoquées dans les documents, mais qui existent aussi. On a trouvé d'autres documents qui montraient qu'elles existent.
Oui, vous avez une lettre assez marrante qui ne dit rien d'argent, mais on comprend que finalement, c'est la maison qui est très contente que Copland continue à boire leur alcool, etc. Alors, un aspect aussi très important, c'est que ces auteurs-là deviennent eux-mêmes des figures médiatiques pour les plus connus. Donc, il y a bien sûr le modèle Simenon, il y a donc Frédéric Dard et il y a Jean Bruce qui deviennent eux-mêmes des figures d'une sorte de végétarien. Mais en général, même des auteurs pas connus gagnent leur vie. Et ça, c'est une nouveauté aussi. C'est que c'est ce qui leur permet réellement de ne pas graviter autour des institutions traditionnelles de la littérature légitime et ce qui leur permet de créer vraiment une professionnalisation réelle du travail des écrivains. Et ça, c'est une transition importante aussi.
Il y a une volonté d'en faire des figures médiatiques. Ça ne marche pas à plein pour tous, hein, mais ça a été intéressant pour nous de consulter les archives de l'INA, de voir aussi comment, du côté du Fleuve Noir, on essaie de lancer une petite publication qui s'appelle La Machine à écrire et qui permet de construire un discours pour les prescripteurs, en fait. C'est un discours qui est à destination d'intermédiaires de la culture, de libraires, par exemple, hein, pour pouvoir raconter qui sont ces auteurs et donc qui se mettent en scène. Parfois, ils se mettent en scène dans les voyages qu'ils peuvent faire avec l'idée de dire que leurs écrits vont être très documentés. Parfois, il s'agit de se mettre en scène comme une figure de modernité, comme on mettrait en scène des vedettes de la chanson ou du cinéma. Il y a des interviews inventées. On le raconte ça aussi dans le livre. Il y a la volonté de faire voisiner ces auteurs qui sont... C'est une génération relativement jeune, en fait. Hein, dans les années 1950-60, c'est des gens qui, pour certains, ne vont pas très bien vieillir et qui vont devenir des auteurs assez rances au début des années 80. Mais à l'époque, ils sont jeunes. Et donc, on essaie de les propulser comme les nouveaux visages, finalement, du roman populaire à la française. C'est important parce que si on les considère à partir du champ littéraire, ils sont effectivement périphériques. Si on les considère dans le champ médiatique, alors ils deviennent des figures centrales et on saisit à travers eux des concepts et des processus qui sont centraux. Et au milieu de ça, évidemment, il y a des auteurs qui vont devenir des bêtes médiatiques. Évidemment, Frédéric Dard, hein, qui va être familier des plateaux de télévision, qui va se raconter, dont on va attendre les bons mots. Dans une moindre mesure, Gérard de Villiers, un peu plus tard, qui va cultiver un goût du clash et de la provocation, et qui sera très très bien joué des médias. Donc oui, ils apparaissent assez tôt. Ce sont des gens de médias, hein. Ils connaissent en fait les circuits, ils connaissent les différents supports, parce que de toute façon, ils produisent pour différents supports. Donc, on n'a pas été étonné de les voir finalement en si bonne place à la télé, qui est un média moderne encore, hein, dans les années 1960, ou à la radio, ou dans tout autre type de média.
Ça m'a fait penser, en parallèle à tout ce qui était en train de se passer autour de Minuit, de la nouveau roman, Nouvelle Vague, etc., etc., la French Touch en général. Et ce qui est très curieux, c'est que il y a eu une effervescence que Barthes, d'ailleurs, avait déjà regardé dans Mythologie, etc. Mais il y a eu une effervescence, un intérêt des médias pour les figures d'écrivains. Et ce qui est assez curieux, c'est finalement de voir cet autre sorte de création française qui a été, comme vous l'avez dit, donc profondément oubliée, mais qui à ce moment-là se disputait de protagonisme, disons, avec ces autres figures qui maintenant sont celles qui ont été canonisées quand on parle des années 50, des années 60 en France et de la culture française de cette époque-là. Donc, c'est vrai aussi que c'est très important et c'est ce que vous faites, de corriger aussi ce portrait fantasmé de cette époque-là. Il y avait un côté staccanoviste, il y avait un côté très ciblé de ses productions, il y avait un côté très curieux de la documentation. La question de l'espionnage va devenir assez centrale et il va y avoir un rapport assez curieux avec les faits de réel dans ces œuvres-là. On va s'attendre à ce que ces œuvres d'espionnage livrent des clés pour comprendre la situation géopolitique de plus en plus complexe dans les différentes étapes de la guerre froide, ce qui est aussi quelque chose d'assez curieux, où l'écrivain lui-même devient une sorte de figure un peu médiatrice entre les services secrets et la culture médiatique, d'où le fait qu'ils vont être accusés dans les années 70, comme vous le signalez, par les gauchistes, etc., d'être des collaborateurs carrément des services secrets français, ce qui est assez ironique aussi pour de la fiction.
Et qui est complètement faux. Hein. En réalité, ils n'ont pas de relation privilégiée avec les services secrets. Celui qui aurait été le plus proche serait Gérard de Villiers. Et en réalité, même lui, dans le fond, ses sources de renseignements, ce sont les diplomates, en effet, mais ce sont surtout les journalistes locaux. Il se déplace sur le terrain, sont les journalistes locaux. Il a des relations, mais ce n'est pas quelqu'un qui avait des... Il connaissait peut-être quelques personnes dans les services secrets à force, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui avait ses entrées dans les services secrets, ni français, ni américain.
Et il y a le chapitre donc, où vous analysez justement la question des imaginaires des Trente Glorieuses. C'est vraiment fascinant, où on voit autour des grands genres qui vont être exploités par ces maisons d'édition, on voit vraiment la transformation. Et ça, c'est vraiment un des aspects les plus intéressants du livre qui nous aide à comprendre justement la force de ces imaginaires-là. Il y a la question de la science-fiction. Et justement, vous mettez en rapport la science-fiction et le rêve technocratique de cette France-là, autour notamment de la question du nucléaire, qui est très intéressante aussi, dans cette volonté de sorte d'indépendance dans le monde de la guerre froide, sorte d'indépendance par la bombe, et les parallélismes donc avec les figures de savants, technocrates de cette science-fiction. Là aussi, ils ont souffert de ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire qu'ils vont devenir, dans les années 70-80, un contre-modèle pour la science-fiction française. Et c'est vrai que je pense qu'il y a toute une partie des fans de science-fiction qui ont pu complètement scraper le côté fleuve noir anticipation. Mais c'est quand même un grand épisode de la science-fiction française.
C'est compliqué parce que c'est vrai que ce roman de science-fiction, la collection Fleuve noir anticipation, hein, qui est vraiment une collection aujourd'hui mythique de la science-fiction, hein, donc, elle avait cette particularité qu'elle était écrite uniquement ou quasiment uniquement par des auteurs français. Il y a quelques exceptions, mais vraiment, on peut dire que c'était une collection d'auteurs français, alors que les autres collections de science-fiction étaient très largement dominées par la traduction. Et sa particularité, c'est que vraiment, elle invente un imaginaire très marqué par cette politique française, cette volonté de la France de retrouver une grandeur par la technologie, par la planification, par le nucléaire. Et il le retrouve alors avec des figures de savants qui ne ressemblent pas aux figures de savants antérieures, qui étaient des sortes de savants isolés, géniaux. Là, ce sont des savants dans des sociétés futures dominées par les savants, donc vraiment des savants liés à des systèmes technocratiques qui sont généralement des utopies scientifico-universelles, soit qui se voient attaquées par des extraterrestres, soit qui se voient minées de l'intérieur, soit qui sont elles-mêmes d'ailleurs extraterrestres, mais dans tous les cas, c'est vraiment une reconversion utopique de l'idéal de développement productiviste français, pour le dire grossièrement. Et donc, en effet, dans les années 70, ce modèle va évidemment être attaqué par les contre-cultures, d'autant que c'est un modèle d'auteurs qui ne sont pas des auteurs extrêmement, à quelques exceptions près, il y en a qui sont d'excellents auteurs de romans de science-fiction, mais pour beaucoup, ce sont des auteurs qui sont plutôt des professionnels, qui écrivent beaucoup de romans de science-fiction. Il y a quand même un paradoxe, c'est que quand on regarde cette science-fiction contre-culturelle des années 70 qui se pense contre le fleuve noir, en fait, les noms des auteurs, ce n'est pas si simple. Il y a quelques auteurs très importants dans les années 70, comme André Vaux, qui a fait ses débuts au fleuve noir sous le nom de Brutsch, et donc qui existait au fleuve noir, qui va revenir au fleuve noir à la fin des années 70. Quand on regarde le grand magazine de science-fiction des années 70, c'est-à-dire Métal Hurlant, qui est vraiment très, très important, eh ben, Métal Hurlant, son titre vient d'un des titres
de fleuve noir. C'est pas exactement métal hurlant. Je ne me rappelle plus, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, beaucoup de ces couvertures citent l'illustrateur de science-fiction qui est Branton. Et quelqu'un comme Druyer dit qu'il a lu toute son enfance des fleuves noirs anticipation. Donc, c'est un peu compliqué. De la même façon, quelqu'un qui va beaucoup critiquer le fleuve noir anticipation dans les années 70, c'est Yves Frémion. Et Yves Frémion, il va publier au fleuve noir au début des années 80. On peut continuer comme ça. En fait, c'est beaucoup plus ambigu. Mais simplement, le groupe, le modèle fleuve noir dans sa totalité, il devient en quelque sorte le contre-modèle dans les années 70. Ça n'empêche pas un intérêt des auteurs pour cet imaginaire et une reconnaissance de cet imaginaire, mais néanmoins, ça devient vraiment l'ennemi. Pourquoi ? Parce que les auteurs du fleuve noir sont de droite, et même très à droite pour beaucoup d'entre eux. Ils sont liés à un imaginaire productiviste, militariste, ils ont du gaullisme, pour le dire très très grossièrement, et ils supportent très mal la montée en puissance, des contre-cultures, hippies. Ils détestent les hippies. Le nombre de romans des années 70 dont les méchants sont des hippies, les traîtres sont des hippies, les violeurs sont des hippies, c'est absolument vertigineux, c'est très... très, très, très intéressant, ça mériterait vraiment de travailler là-dessus, parce qu'on est vraiment dans des combats pour l'hégémonie, hein, en termes gramsciens. Là, on le voit dans les romans, c'est absolument frappant et passionnant. Et la deuxième marginalisation, elle n'est pas seulement idéologique, c'est une marginalisation esthétique, parce que dans les années 70, la montée en puissance de la science-fiction contre-culturelle, du néo-polar, elle se fait aussi par la légitimation, certes, des conventions de ces genres, mais par la marginalisation des formes les plus sérielles. Et donc, il faut se débarrasser, créer des cibles pour légitimer la science-fiction de Bernard Blanc, le néopolar de Jean-Patrick Manchette, contre ces œuvres qui sont des œuvres de professionnels sans ambition.
Là, par rapport à notre mémoire culturelle, il y a une sorte de vide, parce que les amateurs de ce que maintenant on appelle le merveilleux scientifique français, donc la grande période pré-pulp, américaine depuis le 19e, donc puis toute la belle époque, etc., etc., enfin tout ce qui est revisité par toute une partie de chercheurs et de fans, etc., etc., ben, souvent s'arrête à la période fleuve noir, c'est-à-dire que le merveilleux scientifique, c'est souvent considéré comme ce qui précède fleuve noir.
Et donc, une réponse d'amour,
c'est qu'on on les oublie un peu dans, des deux côtés, disons, soit du côté de l'histoire, soit du côté de ce que les gens aiment lire à partir des années 70-80. Oui.
Une réponse d'un mot à ça, parce que tu dis on a une nostalgie de cette anticipation française d'avant le fleuve noir. C'est pas, et ça, cette nostalgie, elle est chez les écrivains, chez les auteurs. Pour moi, ce dont on a la nostalgie à travers ça, c'est la France dominatrice d'avant le déclin de la France sur la scène internationale. Parce qu'on a beau dire, Jules Verne, c'est la France coloniale. Le roman d'aventure fantastique, donc de l'anticipation de l'entre-deux-guerres, c'est quand même aussi la grande France sur la scène internationale. C'est le dernier moment du fantasme d'une grandeur française. Tous ces récits sont liés à un imaginaire de puissance. Et quand on a la nostalgie, généralement, d'un imaginaire, il ne faut pas croire que c'est juste la nostalgie d'un certain nombre de récits. C'est aussi la nostalgie d'un certain nombre de valeurs associées à ces récits. Et ce n'est pas pour rien que l'époque victorienne et l'époque de l'anticipation française vont puiser directement dans ces imaginaires. Et alors, ils le font sur le mode de la nostalgie. Donc, ça permet en quelque sorte de purifier tout ça de cet arrière-plan. Mais pour moi, l'arrière-plan idéologique, il est extrêmement présent dans ces formes de nostalgie.
C'est intéressant. Il faudrait faire un truc sur le steampunk et l'idéologie du steampunk. Mais effectivement, dans tout ce qui est steampunk, bah, finalement, Fleuve Noir est aussi évincé, si on veut. Il ne réussit pas non plus à avoir l'aura des pulps américains, qui pourtant est ce qui se rapproche le plus, c'est-à-dire que la science-fiction du fleuve noir anticipation, elle puise plus dans les pulps que dans les formes de la science-fiction américaine des années 60 ou même années 50. Et on voit qu'il y a le côté space opera comme modèle très clair, alors que justement, dès l'époque Galaxy, etc., aux États-Unis, le space opera, il continuait, mais était déjà un modèle ouvertement décrié par l'équipe Van Vogt, Dick, etc., etc., etc. Et c'est vrai que dans Fleuve Noir Anticipation, il y a quelques figures que rétroactivement, on sauve de l'oubli et on réédite et on leur fait les honneurs. Je pense par exemple à l'Autoroute Sauvage, des choses comme ça, enfin des œuvres cultes dans le catalogue, mais qui deviennent des œuvres envers Fleuve Noir, c'est-à-dire envers la sérialisation dans laquelle elles ont été produites, qui deviennent des œuvres à part entière comme des anomalies de créativité. Les autres grands modèles, d'un côté, c'est au début la figure du noir, du hard-boiled, mais finalement, ça passe assez vite parce que très vite, ça se transforme et vous évoquez justement la transformation de San Antonio, qui est tout à fait symptomatique de ces aspects complexes de l'américanisation, puisque finalement, un modèle faussement américain, qui est le modèle de Peter Cheney, qui est britannique, comme on sait, donc on était déjà dans une Amérique fantasmée à l'origine. Quand on pensait à l'Amérique, ce n'était pas l'Amérique, c'était l'Amérique telle qu'interprétée par un Britannique, à une époque où quand même ces deux cultures sont complètement en train de diverger. Et cette Amérique-là, elle se transforme complètement, ce modèle-là se transforme complètement dans San Antonio, qui est une francisation radicale, pour le coup, au énième degré du modèle.
Il y a un grand spécialiste que tu dois connaître, Dominique Jeannereau, avec lequel on a travaillé. On s'est aussi appuyé sur une partie des travaux de Dominique pour aux origines de la pop culture. Mais cela dit, il n'est pas le seul. Frédéric Dard, c'est un des premiers, en fait, à avoir été étudié à l'université. Oui. Il y a un colloque dès les années 1960. Et encore aujourd'hui, il y a des linguistes qui s'intéressent à ses créations. Enfin, il y a pas mal de monde, en fait, autour du cas.
Et puis, lui, il est vraiment une figure majeure de tout ce que vous étudiez, puisque au-delà de San Antonio, c'est aussi un auteur de Les Romans de la Nuit, qui sont des vrais romans noirs français. Il est aussi grand scénariste pour beaucoup de cinéma policier français, etc., etc. Donc, lui, il est vraiment au cœur de la pop française. Ouais.
C'est la locomotive pour le Fleuve Noir. Ce sont des tirages qui sont impressionnants. Et on sort les chiffres. Je pense que c'est la première fois qu'on voit de manière précise les tirages pour San Antonio. 500 000, 600 000 exemplaires en tirage cumulé. Plus d'un million d'exemplaires pour l'histoire de France vue par San Antonio, parce que c'est là où la magie opère jusqu'au bout. C'est-à-dire que le livre d'histoire de France, qui aura été sans doute le plus lu et qui est un livre d'histoire comique, c'est l'histoire de France vue par San Antonio. Autrement dit, c'est ces auteurs qui réinventent une nouvelle manière de penser la France, de penser la francité, de voir comment finalement se réarticule cette culture française dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est à eux qu'on demande d'écrire l'histoire de France, et c'est chez eux qu'on va la lire et la comprendre. Enfin, ça dit beaucoup du poids que ces auteurs vont avoir, avec l'idée aussi que Dard réussit à être une figure importante pour des auteurs légitimes, qui vont dire « oui, moi j'ai appris à lire ». Alors, il y a toujours ce goût, la transgression racontée qu'on a lu San Antonio dans les années 70 en étant jeune, c'est aussi faire montre de transgression. Mais il a cette place-là. Alors, sur les romans de la nuit, peut-être une précision, parce que c'est important sur la façon dont la figure de Frédéric Dard se transforme aussi au fil du temps. Aujourd'hui, c'est pas lui faire injure que de dire que le nombre de lecteurs de Frédéric Dard est bien moins nombreux que dans les années 70 ou 80, où vraiment il explose tout quoi en termes de diffusion. Les romans de la nuit, c'est intéressant, parce que c'est aussi des romans de la légitimation par le sérieux. Mais c'est des tirages de quelques milliers d'exemplaires, au maximum. Et le dernier carré d'amateurs de San Antonio est sans doute pas représentatif de la masse des lecteurs de tous horizons qui lisaient San Antonio à la grande époque. C'est, je ne sais plus Mathieu, c'est 7-8 tirages pour certains titres, je crois me souvenir.
Ah oui, plus encore. On voit un point de départ à 9000, comme tous les auteurs du Fleuve Noir dans ses premiers romans. Et puis, ils sont retirés. Il y a des moments où il y a un nouveau tirage de 50 à 100 000 par an. C'est totalement vertigineux. C'est quelqu'un quand même dont on peut estimer, c'est une estimation comme ça, mais on n'a pas fait le travail de compter systématiquement, mais on peut penser qu'il doit être autour de 100 millions d'exemplaires pour l'ensemble de ses livres, uniquement pour la France, parce qu'il a été aussi beaucoup publié à l'étranger. C'est absolument vertigineux.
C'est le visage qu'on imagine le plus de cette période-là, comme figure de cette transformation que vous évoquez. Mais au fond, ce qui aurait été le plus représentatif, comme vous disiez au début, c'est l'aspect de la littérature d'espionnage et qui, dans le cas de OSS, précède James Bond, parce qu'on pense souvent que c'est une adaptation française de James Bond, mais la création d'OSS précède, ce qui montre que Ian Fleming était lui-même en train de travailler sur des formules que beaucoup de gens essayaient à ce moment-là de moderniser et qui va devenir donc un des fleurons de ces éditions, avec un immense succès du modèle qui, justement, va succéder au modèle hard-boiled, souvent de manière assez mécanique, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on voit comment on transforme un roman hard-boiled d'un détective dur à cuire en un roman d'espionnage. On suit un peu des paramètres assez similaires et on le transforme.
Oui, c'est ça, Jean Bruce va opérer cette transformation du roman policier américain au roman d'espionnage, et on peut penser que cette transformation
parce que ces premiers OSS 117 sont très proches du roman noir américain.
D'ailleurs, c'est difficile à trouver, hein, les tout premiers, oui.
Et on peut penser que cette transformation, elle tient précisément à la difficulté de proposer un détective privé à l'américaine en France, parce que ce n'est pas la culture au début. Donc, pour échapper à ça, il va fabriquer un espion qui est un espion américain. Hein. Comme ça, ça permettra de faire voyager son espion en France. Et les premiers OSS 117, ils se passent tous dans le périmètre européen. C'est une façon de proposer un Américain en Europe. Donc, on voit bien le mécanisme. Mais très vite, ce n'est pas ça qui va se jouer. Avec OSS 117, avec d'autres espions qui sont des espions très importants, on a cité Copland, qui va vraiment être aussi une des énormes figures du roman d'espionnage par Paul Kenny, et puis toute une série d'autres, le commandeur que tu as cité, etc. Cette multitude d'espions, elle joue un rôle capital pour redéfinir la place de la France dans le monde, c'est-à-dire pour redéfinir, mais pas seulement pour expliquer aux gens sa place dans le monde, mais pour simplement reformuler une identité à l'échelle mondiale pour les lecteurs français. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner une place à la France dans le monde par toute une série de réseaux. Les personnages passent régulièrement en France, circulent en Europe, qu'ils soient américains ou français. Et puis, il y a très souvent des personnages français dans ces récits. Donc, ça construit quelque chose, ça replace la France dans l'échiquier mondial au moment même où la guerre froide la marginalise, parce que la guerre froide polarise le monde à travers ces deux pôles que sont l'URSS et les États-Unis. Et puis, ça permet aussi de resituer la France par rapport à ce qui appartenait à l'identité française, c'est-à-dire les anciennes colonies. Et ces espions, ils voyagent constamment dans les anciennes colonies françaises ou dans les espaces coloniaux qui ne sont plus des espaces coloniaux, qu'ils soient français, portugais, anglais, etc. Et ça aussi, ça permet de reconfigurer les choses. Troisième point, cette marginalisation de la France, elle se traduit par une plus grande difficulté à comprendre les enjeux géopolitiques, parce que ce ne sont plus des enjeux centrés sur la politique française. Et donc, l'espion, celui qui révèle des secrets, eh ben, il dialogue directement avec l'actualité géopolitique, mais il en donne une lecture extrêmement simplifiée. Et ça permet aussi de rendre lisible le monde. Et puis, le dernier point du récit d'espionnage, pour moi, qui est très important, c'est que cet espion qui circule en Europe, qui est lié quand même au modèle de l'OTAN, eh ben, il interagit en permanence avec des Européens, c'est-à-dire qu'il restitue ce qui est en train de se produire aussi dans l'imaginaire français, qui est une vraie révolution, l'idée d'une Europe d'alliés, et non plus d'une Europe de concurrents et d'adversaires. Et de fait, aller en Allemagne pour aller voir les services secrets allemands, aller voir les Anglais même, qui restent problématiques dans les romans d'espionnage, mais qui deviennent des alliés, aller voir, circuler en Italie, en Espagne, etc., même si, bien sûr, ce sont des alliés qui sont moins fiables que les Français, même si malgré tout, il y a ces conflits, mais c'est quelque chose aussi qui se construit dans les imaginaires, et c'est extrêmement important de voir que le roman d'espionnage joue un rôle capital pour la reconfiguration des imaginaires.
Il y a un aspect très intéressant de votre analyse que vous évoquiez tantôt, c'est la question du cadre, c'est-à-dire l'espion comme super cadre ou comme imaginaire héroïque du cadre finalement. Ce qui on imagine bien aussi pour le lecteur cadre, cible, disons, qui lui-même se fantasme en potentiel espion. Et cet aspect de votre analyse est très significatif de cet imaginaire de la modernisation, le gadget, les nouvelles technologies finalement, parce que c'est aussi, il y a tout un côté techno-thriller, par la suite il y aura ce genre qui va émerger, qui va s'autonomiser, mais il y a cet aspect proto-techno-thriller, si on veut, qui est présent, donc qui rejoint encore une fois l'imaginaire des Trente Glorieuses. Et puis l'autre aspect que vous étudiez aussi, évidemment, qui marche aussi pour James Bond, c'est l'aspect de l'hypervirilisation dans un moment où justement, avec l'explosion du tertiaire, bah, finalement, le côté masculin est en crise par rapport à une société où finalement, les valeurs traditionnellement associées avec la masculinité n'ont plus vraiment de mise dans le marché du travail. Donc, du coup, une redéfinition, et vous marquez bien le côté viriliste de ces publications, ce qui vaut aussi pour d'autres enjeux. Vous évoquez rapidement la question de la masculinité en crise dans une autre collection qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est chère à tous ceux qui aiment Fleuve Noir, c'est la grande collection Angoisse. Où là, on est plus dans le modèle de la crise du couple, la crise des figures traditionnelles, et donc toute la question Angoisse était vraiment consacré à un côté un peu Hitchcockien, si on veut, le côté thriller de la production des fictions policières, où on a un peu le modèle Boileau-Narcejac, Les Diaboliques, etc., etc. Donc, ce côté-là de gens qui planifient des crimes, qui veulent rendre fou quelqu'un, etc., etc., avec des côtés gothiques parfois pleinement assumés, comme dans le cas des Frankenstein de Jean Becker, qui, eux, sont devenus cultes aussi à leur manière. Et c'est peut-être la collection qui est devenue la plus culte de Fleuve Noir, enfin, de l'impression qu'on a chez les amateurs, etc. Peut-être parce qu'elle était aussi la plus originale dans le sens que pas originale dans l'absolu, puisqu'elle est très calquée sur d'autres modèles, mais originale dans le sens que finalement, c'est celle où il y a une identité très claire qu'on ne trouvait pas ailleurs.
Alors, pour Angoisse, l'identité, précisément, Angoisse, c'est la collection peut-être qui a l'identité la moins claire, c'est-à-dire que Angoisse a aussi entre du fantastique, oui. Parfois c'est même proche de la science-fiction, le thriller, le récit d'angoisse. C'est une identité un peu floue, mais c'est vrai que c'est là qu'il y a un certain nombre d'auteurs importants. Même si beaucoup de ces auteurs sont des auteurs qui écrivent aussi dans les autres collections, Maurice Lima, Kurt Steiner, etc. À part un des auteurs qui est très très important d'Angoisse et qui s'est consacré à Angoisse, qui est Marc Agapit, la plupart des autres sont des auteurs qui circulent hein, dans les collections. Alors Becker, non, mais Becker, en fait, c'est un ensemble d'auteurs, donc c'est un peu différent. La question des relations entre hommes et femmes, on l'a plutôt étudiée dans Spécial Police, parce que c'est là que se jouent, selon nous, plutôt les oppositions. Mais
c'est plutôt dans Spécial Police qu'on a abordé ça, parce que Spécial Police, c'est vraiment cette littérature de la description de la société, des relations entre hommes et femmes, d'une masculinité en crise, c'est-à-dire d'une masculinité un peu prolétaire ou alors de classe moyenne qui peine à s'affirmer. En fait, l'opposition entre le minable, qui est issu des classes moyennes, qui a un métier qui ne lui plaît pas, qui a un métier aliénant, que sa femme méprise, etc. Et le gangster, enfin le voyou, parce que dans Spécial Police, ça devient très vite un voyou, qui est quelqu'un qui est une figure négative masculine, mais qui hérite de la masculinité antérieure, qui est celui qui frappe sa femme, disons, ou qui frappe la prostituée, qui est ultra-violent, qui tue des gens, et qui correspond à une ancienne masculinité en crise également. Et ça nous intéressait de voir que, dans le fond, c'est une obsession dans Spécial Police, vraiment Spécial Police. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un livre sur ce roman policier qui dure très très longtemps et qui décrit des transformations profondes de la société, mais toujours de façon problématique et un peu réactionnaire. Je pense que Spécial Police, ça mériterait une lecture assez régulière.
C'est celle qui plonge directement dans le sexy noir que j'évoquais. Il y a justement premier livre devenu culte de Michel Audiard, oui. Méfiez-vous des blondes. Là, on est dans le sexy noir d'après-guerre. Donc là, on est vraiment...
À l'origine, c'est du sexy noir, ça se transforme très vite et ça devient du roman de gangster à la française, donc encore proche du roman noir. Et très vite, ça devient un roman vraiment très marqué par un imaginaire social. Il parle beaucoup de la médiocrité, d'une masculinité décevante, justement, des femmes qui disent à leur homme « t'es un nul ». Et puis, ça parle, mais d'une façon peu intellectualisée, de l'aliénation sociale, par exemple, mais peu intellectualisée, c'est pas du tout comme ça sera dans le néo-polar. Et puis, surtout, c'est quand même très réactionnaire. C'est vraiment un roman policier qui déteste les gauchistes, qui n'aime pas trop la libération de la femme. Les très jeunes femmes libérées se font violer très, 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 très souvent. J'ai quelques exemples un peu tardifs, mais un ouvrage qui s'appelle « Sur un air de viol » et qui présente des hippies dont on voit qu'ils vont violer la jeune fille. « Grief cardiaque » qui va encore évoquer le San Francisco des hippies avec une fille très déshabillée. On voit bien ce côté réactionnaire. Mais ce n'est pas parce qu'une série d'auteurs sont réactionnaires qu'ils ne décrivent pas de près la société. Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que, dans le fond, ce discours réactionnaire, il est réactionnaire par rapport aux transformations du monde. Donc, il ne cesse de parler des transformations du monde.
Il fait partie du discours social au même titre, voilà. Évidemment, que les discours progressistes, etc. Ce qu'avait bien montré, entre autres, notre... cher
Marc Angenot.
Vous faites une analyse très, très intéressante de ces va-et-vient entre donc, les transformations de la culture populaire française et ces genres. C'est très limpide dans la manière dont vous expliquez ces grandes configurations qui prennent vraiment une grande importance dans le lectorat et dans l'imaginaire de l'époque. Et puis, il y a l'aspect qui va vous occuper par la suite, qui est la question du ce que vous appelez le French transmédia, donc les origines d'une certaine transmédialité pop autour de ces productions. Et vous évoquez des choses très intéressantes, un peu étonnantes parfois. Alors, on connaissait bien entendu le lien avec les adaptations, c'est-à-dire qu'on sait comment OSS a été adapté au cinéma, Copland aussi. On connaissait bien entendu le travail énorme et pour moi très intéressant comme scénariste de Frédéric Dard. Mais il y a d'autres aspects que vous exhumez, notamment le fait qu'il rachète cette édition de bande dessinée, c'est Artimia, je pense.
Arédit Artima, oui.
Et il propose, ce qui m'a fait découvrir, je ne connaissais pas, des versions un peu sur le modèle des Fumettinelli italiens, puis du Sexinelli italien aussi, des adaptations en bande dessinée des différentes collections. Et donc, je ne connaissais pas, et je suis content d'avoir découvert, Hallucination, qui est la version BD pour adultes d'Angoisse, et où il y a notamment les Frankenstein de Becker, et je me suis empressé de me les procurer. Il y a Face d'Ange pour l'espionnage, il y a, je pense, OSS aussi, non, qu'ils ont fait.
Ils y sont vraiment tous, c'est une entreprise systématique et voulue d'adaptation en bande dessinée de l'ensemble du catalogue du Fleuve Noir, mais aussi d'une bonne partie du catalogue de Plomb, qui est un éditeur qui fait aussi de l'édition populaire à l'époque, et puis des presses de la cité. Donc, c'est vraiment une sorte de projet d'adaptation médiatique pour décliner, en quelque sorte, les succès du temps dans plusieurs modes d'expression, et qui va dans le même sens que ces efforts que font les responsables éditoriaux du Fleuve Noir de favoriser ce qu'ils appellent les droits dérivés. Ce que je disais tout à l'heure, les adaptations en feuilleton, en dramatique radiophonique, en série télévisée, etc. Il y a un vrai, vrai effort, hein, et au cinéma, beaucoup, il y a un vrai effort d'explorer le transmédia, et surtout, il y a cette idée que la littérature populaire est désormais un produit médiatique, un produit pris dans un transmédia. Donc ça nous a beaucoup intéressé parce que c'est très en désaccord avec ce qu'on imagine être la littérature populaire. Ça montre que très tôt, on comprend que la littérature populaire est un enjeu médiatique. Et en même temps, ça raconte aussi un transmédia qui n'est pas le transmédia d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas le transmédia des grandes industries culturelles, mais qui est une sorte de transmédia un peu cheap, un peu bon marché, un transmédia de médias eux-mêmes peu légitimes, comme la radio populaire, comme la presse régionale, comme la bande dessinée en comic strip ou la bande dessinée petit format. Et ça, c'est très intéressant de voir tout à la fois comment des choses s'inventent et puis comment, dans le fond, elles s'inventent selon des paradigmes qui sont très différents de ceux d'aujourd'hui, même s'il y a des points troublants. C'est-à-dire que Arédit Artima, qui va être exploré pour le Transmédia, c'est aussi l'éditeur de DC et de Marvel, une bonne partie du catalogue de DC et de Marvel. Mais ici encore, pas du tout du DC et Marvel qu'on connaît aujourd'hui, mais d'un DC et Marvel bon marché, qui n'a pas de valeur, qui est vraiment le fin fond de la bande dessinée pour les Français. Ce qui explique que quand Arédit Artima adapte Wonder Woman ou Superman, eh ben, il le fait en modifiant les cases, en redessinant les cases, en redessinant les costumes des personnages quand ils sont trop déshabillés, sans hésiter à transformer l'objet, parce que c'est un objet qui n'a pas de valeur. Et ça, c'est vraiment aussi la manifestation que on est dans un système qui invente déjà les conditions de ce que seront les années 90, mais qui reste en fait aussi inscrit dans une forme médiatique à l'ancienne, quoi.
Tout à fait. Et le côté aussi très intéressant que je ne connaissais pas, des traductions. Et là, on a quelques couvertures tout à fait fascinantes en grec, en espagnol, en italien beaucoup, dans les pays de l'Est aussi. Donc, on voit des choses assez sympathiques de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que cet imaginaire très hexagonal, pour toutes les raisons que vous analysez, il a profité aussi de l'irradiation de la culture légitime française, et ça a été un peu comme l'effet collatéral de la francophilie de ces années-là.
Je ne suis pas sûr que ce soit l'irradiation de la culture légitime. Je pense que la culture populaire française est une culture qui a toujours circulé, donc on peut dire que c'est la culture française qui irradie, mais aussi la culture populaire, il ne faut pas oublier que le roman feuilleton français au XIXe siècle était celui qui circulait le plus.
Oui, oui.
Donc non, je pense vraiment que c'est le reste de cette habitude de lire du roman populaire français. Simplement, on pensait qu'après la Seconde Guerre mondiale, plus personne ne s'intéressait à la culture populaire française, qu'elle avait disparu du champ international. La vraie découverte, c'est au contraire que c'est un des domaines où la traduction se fait de façon très massive.
Il y a le fait qu'on utilise Catherine Deneuve pour les couvertures, etc. C'est-à-dire que c'est un imaginaire qui est un peu global de ce qu'on pouvait. Bah, étant espagnol, je sais à quel point la génération de mes parents a vénéré la France et comme sorte de foyer culturel, liberté, etc., etc. Et je pense qu'il y a un peu une onde de choc à travers ces figures-là de dire, bon, on lit un truc qui est quand même français, qui évoque cet imaginaire de la France. Et je pense que le paradoxe, peut-être, il est du côté de, par exemple, la Nouvelle Vague, c'est-à-dire à quel point la Nouvelle Vague a profité d'un vedettariat populaire français pour avoir aussi son aura. C'est-à-dire que d'un côté assez curieux, ce qui se présentait comme l'anti-populaire, finalement, était en train de miser, pour la grande période, était en train de miser sur cet aura. Mais bon, c'est toute une question un peu vaste, mais c'est intéressant de retrouver donc le visage de Deneuve là-dedans. C'est aussi un grand moment, et ça c'est clair, du cinéma populaire français, c'est-à-dire que s'il n'y a pas juste cette culture littéraire populaire, c'est aussi un moment de quelque chose qui par la suite va être plus problématique, mais c'est aussi le cas en Italie, en Espagne, etc. C'est un grand moment des cinémas populaires européens, et c'est vrai que c'est aussi à lire en parallèle du fait que beaucoup de ces auteurs ont contribué à ce cinéma populaire. On citait tantôt Audiard, bien entendu, mais d'art, comme je dis, les films, je me suis à un moment donné intéressé à tous les différents films autour de la planète d'art, et c'est quand même très intéressant. Puis il y a beaucoup de films qui, parce que dans le cinéma, c'est un peu plus complexe, la limite entre ce qui est légitime et ce qui est populaire, étant un art populaire à la base. Le fait est que certaines des productions de d'art, on sent qu'elles sont concomitantes avec quelques grands succès du cinéma français de cette époque. Et puis, il y a donc le fait que la différence peut-être, et le côté qui vous a sans doute intéressé, la différence avec ce qui se faisait précédemment, c'est encore une fois la planification, le côté visionnaire de planifier ces fictions de grande consommation et le fait de penser réellement à une culture médiatique intégrée. Tu as beaucoup analysé dans Fiction à la chaîne toute la généalogie des rapports complexes entre littérature populaire et médias dès le 19e siècle, avec adaptation au théâtre, etc., etc. Mais là, peut-être, ce qui est un peu différent, c'est le côté unificateur de la planification, non ?
Unificateur relativement, hein, mais il y a en effet désormais une vraie volonté de le faire. Et puis, c'est vraiment une exploitation transmédiatique. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on reste quand même lié à deux univers, celui du théâtre et celui de l'imprimé. Là, on voit qu'on explore toutes les possibilités. Et alors, ça va être très frappant dans les années 80, parce que ça, c'est une chose formidable, on en a très peu parlé. Il faut savoir qu'on a parlé d'un très petit nombre de choses qu'on a découvertes, parce qu'on avait vraiment une telle masse d'archives. Et puis, pour que le livre soit cohérent, hein, il y a toujours cette volonté de faire d'avoir un propos cohérent, de ne pas raconter tout. Mais on a découvert des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de projets non aboutis, des projets médiatiques non aboutis, parce qu'on a les archives de toutes les tentatives d'adapter au cinéma, à la télévision. Et alors, ce qui est passionnant, c'est les années 80, au moment où le fleuve noir décline, mais où on voit malgré tout les premières adaptations en jeu de rôle, les premières adaptations en jeu vidéo, des nouvelles formes d'adaptation en bande dessinée, en audio-livre, sur cassette. Et là, on voit aussi toute une exploration des possibilités d'un nouveau transmédia.
Je pense que c'est un livre à faire, hein, Mathieu. Je pense que c'est un beau livre à faire. Puis une exposition, je ne sais pas si vous allez faire une expo, mais je pense que ce serait très intéressant. Bon, c'est né d'ailleurs d'une expo aussi, le projet à un moment donné vous évoquez, qui était une expo qui s'appelait Populaire et qui était une expo de Editis, non ?
Voilà, qu'on a faite au sein de la maison. On ne l'a pas beaucoup médiatisée, cette exposition, parce qu'elle était vraiment à destination d'Editis. En fait, c'est une sorte de donnant-donnant. On a eu accès aux archives aussi parce qu'on a fait un travail aussi vers Editis. Et puis, c'était une chance de faire cette exposition parce que c'était tout à fait passionnant. Hein. En un sens, on a l'impression d'avoir quand même identifier une sorte de chaînon manquant entre la littérature populaire, ce qu'on appelait la littérature populaire, et ce qu'on appelle la pop culture, d'où le titre, hein. Ce moment où on glisse progressivement de la littérature populaire à la pop culture.
Et puis le dernier chapitre qui est justement très très intéressant parce que c'est le moment de déclin, mais en même temps un déclin très foisonnant avec des sursauts de créativité très paradoxaux. Alors ça c'est un aspect qui lui-même pourrait être un livre en soi, c'est ce moment très étrange où pour beaucoup de raisons que vous étudiez finalement le modèle périclite. Un des aspects qui est frappant, c'est le côté que Fleuve Noir et Cité avaient été hyper adaptés à un moment donné. C'est-à-dire que justement, ils ont été hyper adaptés à cette transformation de la France des Trente Glorieuses. Et puis justement, avec la fin des Trente Glorieuses, avec le côté post-68, etc., c'est une autre France qui se dessine et il n'est pas facile, clairement, de poursuivre la formule. Ce qui est sûr, c'est que la formule telle qu'elle est morte, ce qui va faire que beaucoup de ces collections vont fermer, qu'il va y avoir un net déclin du lectorat et des transformations assez énormes. Et vous étudiez ça sous différents angles, et ça c'est très intéressant, la contre-culture qui va être très contre Fleuve Noir, contre cette forme de littérature populaire, avec un paradoxe majeur qui est le fait que la culture populaire commence à être légitimée à travers, ironiquement, la contre-culture. Donc, c'est le moment où la bande dessinée devient un art, enfin, est considérée comme un art. Le polar devient une littérature contestataire majeure, etc. La science-fiction devient un référent. Donc, il y a un côté paradoxal. Toutes les choses que le groupe de la Cité avait fait deviennent légitimes, mais pas sous leur mouture, c'est-à-dire pas sous leur forme très industrielle, stakhanoviste, sérialisée, standardisée, etc., etc. Et tout ça devient automatiquement ringard et puis réactionnaire. Donc, il y a toute une histoire que vous évoquez aussi sur comment le côté réactionnaire était présent dès le début, parce que beaucoup de ces gens-là étaient justement des gens qui avaient été compromis d'une manière ou d'une autre avec la collaboration. Et donc, plusieurs générations, disons, vont se succéder dans un certain côté qui devient de plus en plus réactionnaire par rapport aux transformations de la France. Donc, il y a ce côté-là déjà du décalage et du paradoxe qu'on reconnaît la légitimité de ces formes, mais pas sous cette forme-là, on pourrait dire.
L'hypothèse qu'on fait, c'est que la génération des contre-cultures est la génération qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été nourrie de la pop culture, enfin de ces genres américains. Et en même temps, les acteurs des contre-cultures sont des acteurs issus de la bourgeoisie, essentiellement. Et donc, si c'est leur culture, ils ne peuvent malgré tout pas y adhérer dans des formes trop populaires. Et donc, leur investissement va être un investissement distinctif et ils vont inventer des formes distinctives de romans policiers, de science-fiction. Et pour les inventer, il va falloir qu'ils les inventent aussi contre les formes les plus populaires, celles du fleuve noir. Ça, c'est une chose, mais en même temps, ils vont absorber les codes qui sont déjà leurs codes. Finalement, c'est les codes de tout le monde. À partir des années 70, ce sont les codes de tout le monde, y compris ceux des contre-cultures, de ce qu'on pourrait appeler les avant-gardes des années 70, hein, dans le fond. C'est cette rupture qui est très intéressante. À partir de ce moment-là, le jeu sera d'être un auteur populaire ou un auteur légitime. Et puis, il y a une autre mutation majeure, c'est finalement la mutation des modes de consommation et des réseaux de distribution. C'est-à-dire que les réseaux de distribution populaire du fleuve noir entre en déclin en réalité. Pourquoi ? Parce que le lectorat le plus populaire, lui, alors qu'il y a un lectorat bourgeois qui s'intéresse à la science-fiction et au récit criminel, le lectorat le plus populaire, lui, il va de plus en plus vers la télévision et il lit de moins en moins ces choses-là. Et du coup, le mode de consommation des fleuves noirs, qui sont des romans interchangeables, il décline et toute cette littérature que moi j'appelle la littérature fordiste, elle va décliner. Il ne reste aujourd'hui comme littérature fordiste que Harlequin, qui ne va pas très très bien. Mais c'est le dernier exemple d'une littérature standardisée, de livres interchangeables. Donc, en fait, on voit une mutation des lecteurs, une mutation des réseaux de distribution qui va se traduire par une marginalisation des auteurs et qui va être accompagnée, je l'ai dit tout à l'heure, d'une transformation aussi du centre idéologique de la culture qui va largement basculer sur la gauche, y compris dans les médias, dans la culture populaire, etc.
Et il y a, du coup, dans ce moment étrange, il y a toutes sortes de réaménagements. Il y a une nouvelle figure qui apparaît, Siri, qui essaye justement, et c'est assez touchant et intéressant de voir comment il comprend bien ce qui est en train de se passer. Il a une bonne lecture de toutes ces transformations que vous avez analysées. Et il essaye d'y pallier, mais c'est trop tard, évidemment, pour que ça puisse marcher. Mais il y a des choses très bizarres. Il y a d'un côté la collection Gore, qui est aussi une des collections un peu cultes de Fleuve Noir par la suite, encore de nos jours, qui, elle, est une tentative de créer une littérature gore à l'instar du succès du cinéma gore dans les années 80, en commençant justement le numéro 1 par l'adaptation de La Nuit des Morts Vivants. Et ça va être une collection très particulière, mais qui est aussi une niche, c'est-à-dire qu'on voit bien que on n'est plus dans quelque chose qui pouvait être mainstream comme l'espionnage, par exemple. C'est déjà une volonté de réagir par un autre type de consommation populaire, finalement.
En fait, ce qu'on voit dans les années 80, ça c'est vraiment le tournant des années 80, le Fleuve Noir a compris qu'il a perdu la partie sur ses terrains de domination antérieure. En effet, Patrick Siri, qui est dans la maison depuis longtemps, mais qui se retrouve à avoir les rênes de la maison d'édition, va explorer les nouvelles tendances de la littérature populaire. Il va investir, par exemple, la fantasy. Il va proposer des collections de romans. En effet, gore, le gore, l'intérêt du gore, c'est quoi ? C'est que ça se nourrit du cinéma bis, de la culture trash, des sous-cultures de mauvais goût. Tout ça, le trash, le bis, le cinéma sous-culturel, cette culture, c'est celle qui va dominer par la suite. C'est celle qui va s'imposer progressivement comme une culture distinctive au sein de la pop culture. Mais lui, il l'identifie, et pas seulement dans la collection Gore. En fait, il va faire entrer aussi dans la collection Anticipation, qui existe encore, donc celle de science-fiction, des nouveaux auteurs qui sont aussi des auteurs qui correspondent à cette nouvelle sensibilité. Joël Houssin, qui dans le polar va sortir le Doberman, ultra violent, punk, et qui va faire aussi une science-fiction un peu punk, qui va d'ailleurs être adapté de mémoire par les humanoïdes associés en bande dessinée. Je dis peut-être une bêtise si c'est pour les humanoïdes associés, mais ça montre un peu cette sensibilité. Il y a Serge Brussolo, qui va vraiment être un auteur à ses débuts, un peu aussi d'une sensibilité punk de la science-fiction. Et donc, il y a ces nouveaux auteurs qui apparaissent et qui renouvellent les choses. Il va même lancer une collection, alors je ne sais plus si c'est lui ou son successeur qui lance une collection adaptée de jeux vidéo. D'autres vont lancer des collections adaptées par la suite de jeux de rôle. Donc, ils vont tous sentir ces transformations et essayer.
Le porno aussi avec Hard 2004, dont j'avais jamais entendu parler.
Voilà, qui est un ratage monumental. Mais donc, il essaye plein de choses. Il essaye aussi de faire du néopolar en lançant une collection de néopolar. Donc, on voit bien comme il repère toutes ces choses et il essaye de lancer des choses. Il n'y arrive pas très bien, il faut bien le dire. Enfin, il y arrive un peu, hein, il y arrive un peu, mais ça ne dure pas assez. Et en fait, le vrai problème, c'est que c'est difficile de faire de la littérature de genre distinctive quand on est publié en supermarché de façon standardisée.
C'est qu'il était quelque part à la mauvaise place, c'est-à-dire qu'on sent sa créativité qui aurait pu fonctionner dans plein de petites maisons d'édition indépendantes, alternatives, etc. Sauf que ça marche pas pour un mainstream qui finalement n'est plus du tout… Donc, c'est la volonté de sauver le côté mainstream de ces éditions, mais avec du contenu qui est beaucoup plus du côté de la périphérie ou de la guérilla culturelle, etc., etc. Souvent, on fait des analyses soit très cultes du personnage, de l'acteur social, soit des analyses des grands systèmes. Et là, on est vraiment à la croisée entre les deux parce qu'on voit les limites de que peut faire un individu, un agent intéressant qui a compris beaucoup de choses des dynamiques culturelles, mais qui lui-même a des cartes limitées avec lesquelles jouer. Alors, cette volonté de se réinventer, bah, finalement, elle va être vouée à l'échec, mais non sans un certain côté intéressant. Le succès de ce moment-là, c'est la formule Gérard de Villiers qui va publier ailleurs, mais qui va être très imitée. Donc, tu parlais aussi d'une mini-série qui essayait d'imiter le côté très porno-violent Gérard de Villiers, mais qui SCOM, qui ne va pas avoir non plus le succès escompté. Et donc, finalement, on sent qu'ils ont perdu la main des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la main du côté de la réinvention des genres dans lesquels ils publiaient, et ils ont perdu la main dans le sens de ce qui peut encore être sériel, mainstream. Et là aussi, il y a un paradoxe. Les SAS sont parmi les choses les plus lues par les Français de toute cette période-là, et eux aussi ont été complètement snobés par la critique et puis par l'académie, etc., etc., les institutions, alors que c'est ce qui a subsisté finalement de ce modèle-là le plus longtemps finalement. C'est vraiment une période aussi très, très intéressante en soi de cette transformation majeure. Et puis, il y a un épilogue qui est aussi très, très intéressant où vous devez évidemment aller beaucoup plus vite en affaires, mais qui s'appelle de manière très bien trouvée « Buffy contre Copland ». Et là, c'est le choc de la pop culture globalisée telle qu'on la connaît, qui vraiment transforme tout. C'est une nouvelle révolution quand même dans tout ça, mais on sent que c'est un nouveau chapitre, effectivement, qui s'ouvre.
Oui, et c'est un chapitre qu'on découvre malgré tout au Fleuve Noir, c'est-à-dire que quand échouent toutes les tentatives de renouveler ce roman populaire à la française, ben, la dernière solution, ça va être de reconnaître la marginalisation du roman dans ses formes populaires par rapport aux autres formes populaires, d'une part, et de reconnaître, encore une fois, la marginalité de la France par rapport aux...
Franchises globalisées. Ouais. Ouais.
Voilà. Et donc, le Fleuve Noir va investir les novélisations, massivement, celles de Buffy, les novélisations de franchises, j'ai cité les jeux de rôle, des séries de jeux de rôle, et puis les traductions à la volée de séries de fantasy. Et il va reconnaître, en quelque sorte, la fin, en effet, de ce modèle dans lequel la littérature populaire pouvait encore être au centre du dispositif médiatique et rayonner autour d'elle, devenir un éditeur de Buffy contre les vampires, Charmed, de quelques tentatives du côté des novélisations de super-héros, des choses qui rendent le Fleuve Noir un éditeur de médiatique, ce qu'il n'est plus aujourd'hui, hein, je tiens à le préciser. Le Fleuve Noir ne fait plus de poche aujourd'hui, ne fait plus de la novélisation, mais fait du best-seller, qui est encore un autre modèle, et à mon avis, est le modèle viable aujourd'hui pour échapper à ces anciens modèles. C'est le modèle du best-seller, le grand modèle populaire aujourd'hui, qui est une nature très différente de ce qu'on décrit ici.
Oui, bien sûr, c'est l'antisérie finalement, c'est l'identification d'une œuvre singulière qui traverse les différentes classes sociales et les groupes sociaux, etc., et qui réussi à faire une sorte de consensus plus éphémère, plus mouvant, plus changeant aussi, et qui souvent invoque les genres, mais d'une manière beaucoup plus laxiste, et qui souvent les croise d'ailleurs. Souvent, c'est un mélange de sentimental avec post-apocalyptique ou autre chose, etc., etc. En vous lisant, j'ai été étonné que vous ne parliez pas des films du Jardin sur OSS, parce que finalement, je pense qu'ils sont très caractéristiques de qu'est-ce qui nous reste de tout ça. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on ne peut plus lire ces choses-là qu'au deuxième degré? C'est-à-dire que l'intérêt qu'on peut avoir pour cet univers, est-ce qu'il n'est pas irrémédiablement marqué par le décalage, le kitsch, etc.? Ce qui, à mon avis, démontre le succès populaire, étonnant quelque part, inattendu de ces films, qui par ailleurs, je trouve, sont très intéressants dans leur dosage entre une relative fidélité étonnante à un certain canevas et puis justement un changement total de point de vue, ce qui est une formule assez intéressante, revisiter ces imaginaires-là avec un décalage, mais qui du coup, je pense, fonctionne à plusieurs niveaux, parce qu'il y a un côté nostalgique qui satisfont, il y a un côté de dialogue avec une sorte de passé national, etc., etc. Et il y a malgré tout une certaine volonté, je pense, dans ces films-là, de trouver une grande figure populaire française qui a un côté vieillot, mais en même temps classe. Je trouve très complexe le type de réseau qui irradie autour des OSS, des nouveaux OSS, mais je pense qu'ils ne peuvent exister que par rapport à la figure originelle. En vous lisant, je me demandais justement en épilogue, que reste-t-il de tout ça?
Alors d'abord, OSS 117, ce n'est pas n'importe quelle partie de cette littérature, c'est le récit d'espionnage. Et le récit d'espionnage, il a vieilli parce que son monde n'existe plus. Le monde de la guerre froide, le monde du déclin des empires coloniaux et de cet imaginaire colonialiste qui persiste malgré le déclin des empires coloniaux, ça n'existe plus. Et puis, il y a cette masculinité qui est très marquée, en effet, dans ses romans, mais qui est aussi marquée dans les James Bond, parce que OSS 117 dialogue directement aussi avec le monde de James Bond. Je pense quand même que ce qui a le plus vieilli, de toute façon, c'est le récit d'espionnage. Alors qu'il y a des auteurs qui sont des auteurs intéressants de romans d'espionnage hein, de cette époque, mais ils ne pourront jamais être rachetés parce que leur monde, parce qu'ils étaient en prise avec l'actualité et parce qu'ils cherchaient vraiment à décrire un monde qui n'existe plus et ils avaient une grille de lecture du monde qui n'existe plus. Et donc, c'est très difficile de racheter ça. Je pense que cela dit, c'est un peu la même chose qu'a connu le roman d'aventure géographique parce qu'il était aussi pris avec un imaginaire colonial et qu'à part quelques auteurs, quelques figures, la plupart des œuvres sont illisibles aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Je pense aussi qu'en fait, quand notre cinéma revisite son passé, par exemple, les grandes bandes dessinées populaires, Boulet Bill, Astérix, Obélix, etc., il joue aussi avec une forme de nostalgie et une forme de kitschisation. Et cette kitschisation, elle est très présente dans les adaptations de Spirou, dans les adaptations de Boulet Bill. Je pense, malgré tout, que ces retours sur une culture passé joue aussi sur une forme de désuétude culturelle de ces grandes figures de notre culture collective. Simplement, c'est vrai que c'est beaucoup plus important pour cette littérature populaire parce que, justement, elle était très prise dans son époque. Mais c'est intéressant de se dire aussi que cette époque est moribonde. Et je pense que les Trente Glorieuses sont une époque moribonde, mais je pense que les années 70 aussi sont moribondes. La science-fiction contre-culturelle, elle a pris un énorme coup de vieux aussi. Et je me demande même si les années 80 ne sont pas déjà en train de basculer du côté d'un imaginaire et d'un univers kitschisé. De toute façon, quand on arrive au moment du vintage, c'est-à-dire quand on revisite sur le mode du vintage un pan de la culture, c'est que ce pan de la culture s'est kitschisé. Les années 80 ont été le kitsch des années 2010. Les années 90 sont en train de devenir le kitsch des années 2020. C'est le symptôme d'une désuétude de cette culture. Alors là, je parle globalement. C'est vrai qu'encore une fois, pour S717, c'est un petit peu particulier parce qu'il ne s'agit pas seulement de kitschiser les esthétiques, mais il s'agit aussi de montrer qu'il y a une culture, un imaginaire, une idéologie qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Et donc, c'est aussi ça dont on se moque, mais on s'en moque sur le mode esthétique. C'est à double niveau par rapport à ce qui se produit dans les œuvres qui revisitent aussi bien la bande dessinée des années 60 que finalement les esthétiques clipesques des années 80 ou de séries télévisées des années 80.
Il y a un côté aussi qui reste fascinant, comme beaucoup d'aspects de la culture populaire, de la littérature populaire, c'est les images. On n'a pas eu beaucoup d'occasion de parler parce que le livre n'est pas non plus totalement axé sur ça. Il y a des belles illustrations, mais je pense que ça donnerait lieu à une grande expo intéressante. De toute façon, je pense que les couvertures mériteraient une réédition genre ta chaîne, etc., etc. C'est un projet d'ailleurs que si ça te tente, on pourrait essayer de faire avancer parce que c'est un truc auquel je pense depuis longtemps. Je pense que ta chaîne a fait un très beau travail pour la culture visuelle populaire, mais je pense qu'il y aurait quelque chose de vraiment très intéressant sur toutes ces collections avec ces grandes figures, Branton, Goudron, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est reste vivant. On le voit sur Internet, etc., etc. Il y a encore une fascination pour ces couvertures. Je pense qu'il y a un état de langue aussi qui, moi, m'est cher. Et les gens qui sont fans des grands dialogues du cinéma français populaire, d'Audiard, etc., il y a quand même un côté très sympathique de retrouver un état de langue avec un certain argot, pas aussi prononcé que Série Noire, etc., etc., mais quand même un aspect de dialogue, etc., etc., qui a aussi son charme. Mais c'est un charme effectivement du décalage, ce que respectent d'ailleurs les films d'OSS. Le climat aussi qu'on retrouve dans une série télé comme Au service de la France, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui est justement axé sur la question de la décolonisation, sur ce mode-là ironique. On retrouve dans OVNI aussi, par exemple, dans la série aussi. Je pense que ça fait maintenant partie aussi d'un imaginaire. C'est-à-dire que Fleuve Noir, etc., etc., reviennent sous la forme de l'imaginaire de ce passé populaire français. Et je pense que notre intérêt aussi est inscrit là-dedans. Je pense que c'est aussi l'intérêt d'un livre comme celui que vous venez de faire. Encore une fois, félicitations, c'est très, très limpide. Ça évoque beaucoup de choses complexes, mais de manière qui les rend tout à fait compréhensible. Et je me demandais justement, est-ce que ça va ouvrir sur des nouveaux projets? Parce qu'on peut penser à plein de spin-offs, parce qu'il y a d'autres maisons d'édition comme Marabout, que vous évoquez à un moment. Il y a peut-être un panorama plus global à faire sur l'ensemble de ce processus. Et inversement, il y a peut-être des collections ou des choses qui pourraient être évoquées. Alors, je ne sais pas si vous allez continuer dans cette lancée ou vous en allez ailleurs.
Alors pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, parce qu'on sort de celui-là. On a encore des choses à explorer dans les archives. On ne sait pas très bien sous quelle forme, mais même peut-être sans donner forme vraiment, mais ça nous intéresse encore beaucoup. Je pense que c'est encore un tout petit peu tôt, mais oui, je pense qu'il faudra ouvrir vers des chantiers du type de ceux que tu évoques. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore très bien dire, mais j'espère qu'on aura d'autres chantiers de ce type. Tu as raison pour l'idée d'élargir, pour poser certaines questions qu'on aborde. En fait, on aborde beaucoup de questions de façon un petit peu rapide parce qu'on voulait vraiment avoir une vision synthétique et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on voudrait approfondir.
Super, on a hâte de voir ça, on a hâte de vous revoir bientôt, donc on reste en contact. Merci beaucoup Mathieu, merci encore une fois à Loïc qui a dû nous quitter et puis merci donc à tous ceux et celles qui nous écoutaient. À très bientôt pour un prochain Pop en Stock.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.